Comment osez-vous ? Podcast. Et vous ? Comment osez-vous ? Ce podcast mettra en lumière des personnalités locales qui vivent près de chez moi, en Bretagne, des personnalités bretonnes, d'ici ou d'ailleurs, et pourquoi pas aussi des personnalités nationales situées au-delà. Leur point commun, avoir osé, à leur manière, de manière singulière ou tout simplement de façon touchante. Je retrouve l'interview longue, celle qui donne le temps, qui donne le micro à celles et ceux qui entreprennent différemment. Celles et ceux qui ont décidé de s'exposer autrement, qui ont eu une idée osée, une idée salvatrice pour eux-mêmes et pour d'autres. Oser avec des guillemets, car ce que je trouve osé n'est pas forcément osé pour d'autres et vice-versa. Chacun a ses définitions du verbe oser. Et c'est pour cela que nous rencontrons, à travers ce podcast, diverses formes, diverses expressions. Pourquoi le verbe oser ? Peut-être parce que, comme l'annonçait Simone de Beauvoir, exister, c'est oser se jeter dans le monde. Sans doute parce que, comme sûrement les invités de ce podcast, selon moi, exister, c'est pousser des barrières, donner une contenance à sa vie. Exister, c'est se jeter d'une manière ou d'une autre. Oui, exister, c'est sûrement oser. Je suis Stéphanie, créatrice aujourd'hui de Poséo, création de podcasts portraits sonores pour professionnels et particuliers, et aussi réalisatrice de Comment osez-vous, ce podcast breton. Mon intervenante pour ce troisième podcast est Aminata Blias Sangari, qui est à l'origine de projets mettant en valeur les liens qui nous unissent. De projets mettant en valeur la parole et la notion d'identité. Habitante de Domalin en Ille-et-Vilaine, Aminata a créé l'exposition « Je suis Aminata », une exposition itinérante sur elle-même et à travers cela, une exposition sur chacune, chacun de nous. Une exposition universelle. Cette exposition se termine actuellement, mais je tenais à en parler car elle m'a touchée et elle est liée au terme « oser ». Oser s'exposer, oser créer sans avoir le statut d'artiste, un retour intéressant sur ce temps ici dans ce podcast. Aminata, c'est aussi oser la parole et aller vers l'autre, elle est podcasteuse. C'est oser le festival, elle est la cofondatrice du festival rennais de podcast aux parleuses. Aminata, c'est également oser le vêtement, les accessoires, oser évoluer, oser demander à ce que l'on considère sa pluralité. Pour elle, oser, c'est maintenant oser vivre, tout simplement. Dans ce podcast, beaucoup de sujets. La parole, le deuil, le parcours de vie, les arts, la danse, la musique. C'est mon ADN, en fait, d'être en lien avec les autres, dit Aminata. Rencontre. Aminata, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Alors Aminata, je t'ai invitée aujourd'hui pour parler du verbe oser.
Ouais.
Et oser, ça te va très bien, je trouve, ce verbe.
Mais c'est un mot que j'aime beaucoup. Et avant de venir te voir, j'étais dans mon bureau en train de regarder des choses et j'ai revu un dessin qu'un ami avait fait pour mes 40 ans. Et pourtant, je le sais, mais je l'oublie régulièrement. J'avais, pour mon anniversaire, pour mes 40 ans, j'avais donné un thème à ma fête et je l'avais appelé « oser ». Et tous mes invités me disaient « mais oser quoi ?» Je leur disais « bah, ce que tu veux, mettre une jupe, mettre une robe que personne n'a validée dans ta vie, enfin peu importe ». Et c'était très drôle parce que j'ai eu plein d'amis qui ont osé différemment. Une copine qui est venue sans soutien-gorge, elle dit « c'est la première fois », une qui est venue avec une robe, un ami qui est venu avec la moitié du visage maquillé. Et c'était marrant de voir l'intensité dans l'audace par rapport à ça. Et je me suis dit, bah tiens, effectivement, ce mot-là, ça fait un moment qu'il est dans ma vie, et je pense que même déjà avant, mais j'en ai pris vraiment conscience à ce moment-là, et c'est un mot que j'aime beaucoup, un verbe que j'aime beaucoup.
Donc, et merci. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, oser ?
Plein de choses. C'est un peu bête de le dire, mais oser vivre déjà, je trouve qu'on a plein d'indications dans la vie qui pourraient nous donner l'impression qu'on doit se restreindre, se faire tout petit. Moi, je suis très grande, je fais 1m88, je suis très grande pour une femme, souvent les gens disent. Et effectivement, c'est encore quelque chose que j'entends beaucoup. Ah, t'es grande pour une femme. Et pendant longtemps, par exemple, je n'osais pas mettre de talons parce qu'on me disait, bah, t'es déjà grande, t'as pas besoin de mettre de talons. Et je disais, bah oui, c'est vrai. Et jusqu'à un moment, je me suis dit, bah tiens, ose ça. Et en fait, le regard des personnes, même si c'est de la famille, de l'entourage proche ou de l'extérieur, peut avoir tendance, et c'est jamais forcément dans cette intention-là que les gens le font, à nous restreindre et à nous rendre moins audacieux ou moins audacieuses. Et du coup, ce mot-là, moi j'ai vraiment envie de le réaffirmer et je me rends compte que plus je rencontre des gens dans la vie qui osent et plus ça m'excite le cerveau et je me dis mais en fait, il y a encore tout un panel de choses que je n'ai pas testées. Et quand je dis ça, je ne suis pas du tout une femme casse-cou. Hein. J'ai une amie par exemple qui a fait un saut en parapente il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas du tout dans ce genre de choses-là. Juste oser mettre des choses qui nous plaisent, oser aller parler à quelqu'un qui nous intéresse. Enfin, c'est des petites choses comme ça. Enfin, moi qui m'intéresse, tu vois.
Eh ben c'est exactement ça pour moi aussi. Oser, pour moi, c'est pas forcément faire des choses en grand, enfin vraiment faire quelque chose d'énorme, faire quelque chose que tout le monde va trouver osé. Moi, pour moi, c'est par exemple oser aller vers quelqu'un qui nous intéresse.
Exactement.
C'est vraiment un geste pour moi qui est osé entre guillemets. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup le nom de ton podcast. Alors, on va te présenter tout à l'heure parce que te présenter, c'est très large en fait. Tu fais vraiment beaucoup de choses, des événements liés à la parole, des événements liés à l'expression de soi-même et puis aussi l'expression des autres.
Ouais.
Alors, tout le monde passe sur le trône. Mmh. C'est le nom de ton podcast.
Ouais, quand
j'ai vu le nom de ton podcast, je me suis dit, oh, mais c'est génial comme nom, tout le monde passe sur le trône. C'est vrai que je devrais m'imaginer un peu plus souvent les gens passer sur le trône.
Mais oui, ouais, c'était vraiment un message un peu déjà pour désacraliser le fait que ben on est tous des êtres humains et qu'on a tous la même valeur. Et ça, c'est vraiment ça, c'est ma ligne conductrice depuis ce podcast. Mais déjà avant de me dire, mais en fait, c'est parce je parle souvent de Vanessa Paradis. Si un jour elle m'entend, je serais contente. Hein, mais de dire qu'en tout cas. Voilà, Vanessa, voilà, c'est une femme que j'ai toujours beaucoup aimée et que, c'est pas que j'admire, parce que admirer quelqu'un, je trouve que c'est un peu fort, je pense pas qu'il y ait des gens qui méritent plus que d'autres d'être admirés, je pense qu'on a tous et toutes des vies qui méritent à un moment qu'on se pose dessus, mais pour dire que même si je croisais Vanessa Paradis demain dans la rue, même que je l'aime beaucoup, j'aimerais aller lui parler en me disant bah, elle aussi elle fait caca à un moment donné en fait, donc peu importe ce qu'on fait dans la vie, on est tous capables de faire les mêmes choses aux toilettes, donc lâchons-nous sur le reste. Et ça vraiment pour moi le titre du podcast c'était vraiment un rappel à ça, et le double sens du trône c'était aussi donner à la possibilité à des personnes qui ne se sentaient pas importantes ou particulièrement intéressantes se rappeler qu'on a tous à un moment donné la possibilité de raconter notre vie et que ça va être important pour d'autres personnes, et ça c'était vraiment quelque chose d'important pour moi.
Voilà, et puis aussi la notion de, je pense qu'on est nombreux et nombreuses surtout à être des fois impressionnés par l'autre,
ouais.
Et donc ça permet le podcast par exemple, permet le micro, permet d'aller vers l'autre.
Carrément.
Si on est impressionné par les gens, je trouve que le podcast c'est un bon mode.
Exactement, et c'est vraiment étonnant d'ailleurs parce que je vois moi il y a des conversations que j'avais déjà avec des personnes avant de créer mon podcast, c'était dans confidentiel, sans micro, et je me disais bah les gens au démarrage ah bah tiens, il disait ah ouais mais avec le micro qu'est-ce que je vais, et en fait il l'oublie assez rapidement, et après il s'ouvre sur des choses, et c'est vrai que ça donne un prétexte quand on a un micro pour aller discuter avec des gens, et donc c'est vrai que pour quelqu'un qui serait timide et qui oserait pas, bah ça peut donner, alors on en fait quelque chose ou pas derrière, bon c'est sûr que la personne si on l'enregistre elle a envie de savoir ce que vont devenir ses paroles, mais en tout cas je trouve que c'est un bon exercice pour un ou une timide de se dire je me lance, alors avec une radio locale ou peu importe avec son propre matériel, mais de se dire bah en fait ça donne une bonne raison d'aller vers l'autre et de se rendre compte que finalement bah, on est toutes et tous amenés à pouvoir raconter, se raconter avec un micro, et ça c'est moi c'est un outil que j'adore, enfin je pourrais plus m'en passer, je me dis s'il y a vraiment quelque chose que je devais garder jusqu'à la fin de ma vie, ça serait pouvoir parler avec les gens, ça c'est vraiment un des sens que j'aime le plus quoi, parler et écouter bien sûr.
Et j'aime bien aussi cet outil pour les extravertis, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément timides dans la vie mais par contre qui ont du mal malgré tout à parler d'eux-mêmes,
ouais.
Et quand on leur donne le micro, on découvre des choses. On pensait bien les connaître et puis finalement,
c'est vrai.
On découvre plein de choses.
Je suis d'accord avec toi parce qu'effectivement, quand j'ai créé mon podcast, j'avais fait un épisode où j'avais demandé à une journaliste de m'interviewer parce que je voulais vivre un peu ce que ressentaient mes invités. Et j'ai des amis qui m'ont dit « Ah bah tiens, je pensais te connaître bien et ça, je... » Mais effectivement, on se pose différemment avec un micro parce qu'on va alors et à l'essentiel et en même temps, on va un peu plus loin. Alors, ça dépend aussi de qui on a en face de nous. Hein. Quelquefois, il y a des gens qui ne vont pas aller fouiller, mais il y a des gens quelquefois qui vont rebondir et t'amener à aller creuser un sujet que tu n'aurais pas creusé dans la vie, en soirée avec des amis ou quoi. C'est rare qu'on aille aussi profondément dans le pourquoi du comment. Moi, j'ai quelques amis où je vais comme ça aller fouiller. Moi, j'aime bien aller au fond des choses quelquefois. Et comme je dis souvent, c'est épuiser le sujet, c'est-à-dire comprendre mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu envie de faire ci. Ah, et pourquoi tu allais plutôt vers là. Enfin, il y a des fois, des gens qui me disent « Ah, mais t'es curieuse et tout. » Je dis « Bah oui, mais je trouve que sans ça, enfin, sans cette rencontre avec les gens, ça vaut pas le coup d'être sur la planète et de partager le même air si on n'est même pas en train de comprendre qui est autour de nous, quoi. »
Exactement. Tu as osé le podcast « Tout le monde passe sur le trône ». Tu as osé le festival Haut-Parleuse, le Haut-Parleuse Festival en collaboration avec Suzanne, jolie.
Ouais.
Et tu as osé aussi l'exposition et... Je t'ai invité également aussi pour parler de ce concept.
Ouais.
Parce que pour moi, c'est un concept assez innovant. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà effectué avant.
Bah moi, je ne l'ai jamais croisé avant, en tout cas.
Ouais. Tu ne l'avais pas croisé avant. Moi, je l'ai trouvé très visionnaire parce que tu m'avais envoyé ton concept. Tu recherchais des personnes pour ta communication.
Ouais.
Puis du coup, tu m'avais contacté et tu m'avais envoyé le dossier de presse. Et puis quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est génial quand même.
merci.
Parce que faire une exposition... sur soi-même, mais aussi parler des autres à travers soi. Je trouvais que, parce que moi, quand j'ai vu ton exposition à Rennes, c'était à l'hôtel Pasteur d'ailleurs.
Tout à fait.
Et je me suis dit, mais en fait, c'est un super moyen en fait, de se livrer et on se retrouve. Il y a certains moments où je me suis retrouvée dans tes propos, en fait. Et ça fait du bien.
Mais
c'est
oui.
ce que j'ai aimé.
Ça, c'est vraiment. Alors, c'était mon pari sur l'avenir, mais c'était vraiment la belle concrétisation de ce que j'avais rêvé dans mon lit quand j'ai créé cette exposition. Donc, je suis Aminata et effectivement, la Pipeline, c'était un projet qui fait société. Et quand tu dis que tu t'es retrouvée, c'était ça pour moi faire société. Je me disais que en parlant de moi de façon intime, parce que effectivement je parle de mes deuils, je parle de mes fausses couches, je parle de mes peurs, je parle aussi de ce qui me rend joyeuse. Du coup, je me disais il y a forcément des personnes qui vont ressentir pas pour les mêmes objets, mais des émotions complémentaires ou similaires aux miennes. Et je me disais en fait, si on arrive à ressentir des émotions similaires, au bout d'un moment, ça crée une société de personnes qui vivent des choses similaires et qui peuvent se dire il n'y a pas de raison de se faire la guerre, de se taper dessus, parce que quand moi je ressens de la tristesse face à un événement, que toi tu la ressens aussi, ça crée un lien. Je ne sais pas si tu as déjà été dans les transports en commun à Paris notamment, c'est souvent là que ça m'est arrivé pendant les grèves. Je n'ai jamais vu autant de Parisiens, de Parisiennes se parler, se sourire que pendant les grèves, comme si la galère rassemblait les gens et leur permettait de se dire on vit les mêmes choses. Et ça, je me dis, alors c'est dommage d'en arriver à vivre de la galère ensemble. Quoique ça se passe aussi dans les concerts, les moments un peu joyeux, tout
voilà.
ça. Et je me suis dit, le concept de l'exposition, moi, je me suis toujours dit, et c'est comme ça que je vis toujours mes projets, je ne veux laisser personne sur le bord de la route et je veux que les gens puissent comprendre. Et quand j'ai créé l'exposition, je suis partie de la photo à la base, mais il y a aussi de l'art plastique, il y a de l'audio, il y a de la musique, il y a des textes. Et je me disais, chaque sensibilité doit pouvoir s'y retrouver à peu près. Et je me disais, si quelqu'un n'accroche pas avec la photo, peut-être qu'il accrochera avec les textes, peut-être qu'il accrochera avec ceci et cela. Et c'est ça qui a fonctionné. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de 3000 personnes qui ont vu cette expo depuis qu'elle a démarré. Et que ce soit des enfants, des gens à l'EHPAD, des gens de toute origine sociale, de tout genre, de tous âges, à chaque fois, les retours que j'ai eus, j'ai eu pas mal de gens en larmes. Je m'en gargarise pas comme une victoire, mais je suis contente d'avoir touché la sensibilité des personnes et ces personnes qui me disent « Mais... en lisant ce texte-là particulièrement ou en voyant cette photo-là, ça m'a ramené à ma relation avec mon père. Je me souviens d'un monsieur à Pont-l'Abbé qui a fondu en larmes et me dit « je suis désolé ». Je dis « mais ne soyez pas désolé, en fait, c'est votre humanité, en fait ». Et parce que il y a une des photos, ça lui rappelait les dernières heures de son père à l'hôpital. Enfin, c'est toutes ces choses-là et moi, je suis contente d'être allée convoquer nos humanités, l'universalité, c'est difficile à dire ce mot, de nos vies. Et c'était vraiment ça que je voulais, c'est-à-dire partir de l'intime vers l'universel. Et ça, s'il y avait une chose que je devais garder avec moi, ben c'est vraiment ça, de me dire ben c'est un pari réussi et je suis hyper fière de ça.
Donc je suis Aminata, un projet qui fait société, une exposition sur toi-même, on va dire, en premier lieu, où il y a des photos de toi, de très belles photos d'ailleurs.
Il y a aussi Théon, qui est photographe adorable. Enfin, moi, c'est une très belle rencontre que j'ai faite grâce au podcast Tout le monde passe sur le trône. Et vraiment, la liaison podcast, fait, ma vie de podcasteuse a vraiment ouvert le mot oser dont tu parlais tout à l'heure. Et il s'est vraiment encore plus ouvert depuis que je suis podcasteuse.
Ça a été
et
le déclencheur, déclencheur.
Et vraiment, et tu vois, il y a des personnes, la plupart des artistes qui ont travaillé avec moi sur le projet d'ailleurs, je les ai rencontrés dans le cadre de Tout le monde passe sur le trône. Je les ai ramenés avec moi sur le projet de l'exposition. Et ce podcast, c'est vraiment ma porte ouverte sur l'audace, sur l'envie encore plus d'aller plus loin. Et donc Pauline, je l'avais interviewée dans ce cadre-là, elle faisait partie des timides, elle me disait ah mais je sais pas ce que je pourrais dire, voilà, on a passé 1h28 d'enregistrement, j'ai passé d'ailleurs une journée entière avec elle, c'est l'épisode le plus long que j'ai eu à faire, et on a eu un coup de cœur et vraiment je suis ravie qu'elle m'ait accompagnée sur ce projet-là, parce qu'effectivement ça fait des très belles photos, je le dis avec humilité, parce que moi ça m'a obligée aussi à aller chercher d'autres choses, parce que j'ai beaucoup de photos en noir et blanc, sans mes lunettes, moi je me sens très vulnérable, et elle a vraiment été très finement allée chercher ça. Enfin, c'est vraiment une photographe. Comme j'en ai pas rencontré 50 000, mais vraiment, je suis ravie d'avoir travaillé avec elle. Il n'y a aucun moment où je me suis sentie mal à l'aise. Et elle m'a laissé faire et en même temps me suggérer des choses. Je n'ai jamais eu besoin de poser. Et elle a toujours réussi à saisir des choses très, très fines. Et donc, du coup, qui m'ont permis de faire une exposition très, très belle avec 55 photos et effectivement, après, le travail dont on a parlé tout à l'heure.
C'est vraiment un travail artistique, ton exposition, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'artistes qui ont participé. On ne va pas pouvoir tous les citer, mais il y a des peintures, il y a de la musique, il y a des sons, il y a tes propos, en fait, des propos qui sont toujours liés à une photo. Il y a vraiment une costumière aussi qui a participé.
Tout à fait.
Une bijoutière aussi.
Donc, une parure que je pouvais mettre à chaque vernissage. C'est vraiment, j'avais une mini exposition sur moi. Et ça, c'est vrai que c'est crotte de poule. C'est une amie très proche. Et c'est elle qui, la première, parce qu'elle crée des bijoux fantastiques, elle est à Saint-Brieuc maintenant, mais quand je l'ai connue, elle était à Rennes, qui m'a permis de me rendre compte qu'à travers le bijou, déjà, on pouvait rien que ça sortir d'une zone. Un peu de confort, en tout cas vestimentaire. Et rien que ça, les premières boucles d'oreilles que j'avais qui étaient toutes petites, mais qui avaient des personnages déjà, je me suis dit, mais on peut créer ça. Et c'est une des premières femmes qui m'a permis de me dire, bon, bah, la porte est ouverte, et ben, je ne l'ai plus fermée cette porte-là, et je l'ouvre encore plus. Ce n'est plus une porte maintenant, c'est une baie vitrée.
Plein de baies vitrées, je pense.
C'est clair, c'est clair.
Et je crois que ton exposition aussi, si j'ai compris le sens de l'exposition, c'est aussi te raconter toi, toi vraiment, qu'on te laisse te raconter toi.
Ouais, je voulais vraiment être authentique. Mes parents sont décédés, mon père, ma mère sont décédés, alors à 10 ans d'intervalle, et le décès de chacun de mes parents m'a ouvert sur des pans de moi. C'est pas forcément très agréable peut-être pour des parents d'entendre ça, et moi-même je suis parente, donc je pense que je vais créer aussi pour mes enfants des fermetures, mais quand on est parent, pensant bien faire, quelquefois on limite nos enfants. On limite nos enfants sur l'histoire familiale, la loyauté, toutes ces choses-là. Et moi, la loyauté vis-à-vis de ma famille, elle était très très forte. Je la porte dans mon sac, je la portais parce que je m'en suis vraiment libérée depuis que j'étais née en fait. Et il y avait beaucoup de silence, de non-dit autour de l'histoire, de qui on est, toutes ces choses-là. Et le décès de mon père en 2012, puis après celui de ma mère en 2018, m'ont vraiment... c'est là qu'on voit que je mauvaise en calcul mental, parce que c'est à 6 ans d'intervalle finalement. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a des choses que je ne racontais pas. Il y a des amis à qui je n'osais pas dire quand j'étais mal, quand j'étais triste. Le seul pan auquel ils avaient accès de moi, c'était la femme forte. C'est comme ça qu'on me définissait à l'époque. La femme souriante, dynamique et tout et tout. Et ils n'avaient jamais accès à l'aspect triste, malheureuse par moments, en quête de... C'était... Alors à l'époque, c'était une quête de fusion. J'avais besoin d'être comprise. Et c'était très compliqué pour moi quand en face, la personne ne comprenait pas mon intention, parce que moi, j'étais rempli d'amour et j'avais toujours l'impression que j'englobais les gens de cet amour-là. Mais en fait, il y a des gens pour qui c'était trop. Et j'ai pris conscience de ça, que j'étais tellement dans une recherche de complétude et de me dire, bah, tiens, je vais trouver mon âme sœur, parce que j'avais une relation avec ma sœur qui, en 2016, depuis 2016, souffre d'une maladie neurologique qui fait que du coup, elle n'est plus accessible, je ne peux plus lui parler comme avant. Et ben, du coup, j'étais toujours dans cette recherche-là de quelqu'un qui me comprendrait tellement que je n'aurais pas besoin, ce serait juste un peu comme la magie, on se regarde et hop, on a tout dit. Et donc, tout ça, en fait, j'ai réussi à le décortiquer, à aller le creuser au fur et à mesure. Et cette expo, je voulais vraiment que ce soit de l'authenticité, de dire mais par où je suis passée pour devenir celle que je suis. Je ne dis pas que je suis dans ma version finale de ma personnalité, mais le plus gros effet, j'ai nettoyé pas mal de peurs, de doutes que j'avais me concernant. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus du tout, mais ils ne sont plus aussi forts au point que je décide de me silencer. La chose principale que je ne veux plus maintenant, c'est qu'on me force à me taire d'une façon ou d'une autre. Et quand je dis forcer, mes parents, ils le faisaient de façon un peu implicite. On ne raconte pas à l'extérieur ce qui se vit à l'intérieur. Et donc, c'est toutes ces choses-là que, en tant que parent, on fait parfois sans se rendre compte.
On fait sans se rendre compte.
Et du coup, parce qu'on pense que c'est une façon de protéger un système familial et qu'on ne lave pas son linge sale à l'extérieur.
On leur a appris ça à eux aussi. Donc, eux aussi, ils ont grandi dans cette sphère-là.
Donc, c'est toutes ces choses-là que l'exposition m'a permis de faire ressortir et de mettre sur le papier, donner au monde. Parce que les secrets, qu'ils soient petits ou gros, c'est pas bon en fait. Moi, j'avais des boules de colère qui se positionnaient vraiment dans mon ventre et qui m'ont fait du mal, et je voulais vraiment me débarrasser de ça. Je voulais le léguer à mes enfants en fait, parce que tous mes travaux, je me rends compte, c'est vraiment à chaque fois laisser des traces pour mes enfants. Je me dis, si je meurs demain, je veux qu'ils se souviennent de qui j'étais, à quoi je ressemblais, comment je riais, le podcast à la base c'était ça, c'était vraiment une ode à cette transmission, parce que j'ai regretté au moment du décès de mon père notamment, ma mère, j'ai pu rattraper un petit peu, d'avoir aucune trace sonore de sa voix, aucune trace visuelle de qui il était. J'ai quelques photos par-ci, par-là. Et c'est toutes ces choses-là. Maintenant, tous mes amis, ils savent que quand on est ensemble, je fais des selfies, parce que je veux garder des traces de moments, de beaux moments. Enfin, voilà. Me concentrer sur ce qu'on vit quand même, mais me garder des traces. Et toute ma vie, en fait, c'est vraiment ça. Le lien aux autres. Et c'est mon ADN, en fait, d'être en lien avec les autres.
Je vais te citer, j'ai relevé quelques phrases sur ton site internet, sur le site internet jesuisaminata.com, c'est ça ?
Ouais,
c'est ça. Vous pouvez passer une grande partie de votre vie à avoir répondu à cette question sans que finalement personne ne soit capable de savoir qui vous êtes vraiment. J'ai acquis cependant une certitude, j'ai atteint le moment de ma vie où je suis capable de me définir sans attendre que quelqu'un le fasse à ma place. Voilà.
Ouais. Mais oui, alors... Bien évidemment, l'altérité, comme on appelle ça, c'est forcément quand je rencontre quelqu'un, je me rends compte que là, toi, je suis en face de toi, t'as les cheveux longs, j'ai les cheveux courts, t'as la peau blanche, j'ai la peau noire, on a des lunettes toutes les deux, on a des yeux toutes les deux, on a des dents toutes les deux. Ouais. Et en fait, ce qu'on appelle la discrimination aujourd'hui, ce mot un peu négatif, mais quand on est à l'école primaire, maternelle, on apprend aux enfants à discriminer, mais discriminer dans un petit, un grand, un gros, un mince, et le vrai sens à la base, pour moi, c'est aussi d'être capable de se rendre compte de ce qu'on a de commun et de ce qu'on a de différent avec les personnes. Et après, pour de vrai, on s'en fiche parce que on peut avoir des désirs communs avec quelqu'un de grand alors qu'on est petit. On peut avoir des désirs communs avec quelqu'un qui est blanc alors qu'on est noir. Enfin voilà. Et en fait, les premières personnes qui vont nous dire tu aimes manger ça ou tu détestes ça, parfois ce sont les parents. Après, ce sont les gens qu'on le rencontre dans la vie, tout ça. Mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment arrêter de me dire quand les gens disent ah toi, Aminata, c'est tout toi ça. Par exemple, d'être toujours en train de rire ou machin, enfin voilà, ou d'être dans tous les sens ou d'en faire trop. Je l'ai tellement entendu ça que je me dis mais est-ce que
c'est-à-dire qu'on est resté centré sur un seul caractère, un seul ça. De tes tempéraments.
C'est ça. On me refusait d'être posé, on me refusait d'être silencieuse, on me refusait d'être
ta diversité,
d'être triste, enfin voilà. Et du coup, alors on me refusait, je le montrais pas forcément non plus, ou pas de la bonne façon, ou pas avec tout le monde. Et donc du coup, c'était vraiment important pour moi de m'extraire de ça pas pour dire que je m'en fiche de la vie des autres, mais ne pas en faire une parole d'évangile et me dire un tel a dit ça, il me connaît bien ou elle me connaît bien, et donc du coup ça veut dire que je suis ça. Et je sais qu'aujourd'hui il y a des amis qui n'en sont plus parce que mon passage de celle que qu'ils ont connue à celle que je suis devenue a pu générer un déséquilibre dans la relation, et mon besoin d'être en lien avec certaines personnes n'avait plus, le contrat de base n'était plus le même. Et ce pourquoi je suis allé chercher certaines personnes et ce pourquoi certaines personnes sont venues me chercher à la base, c'est implicite. On ne dit jamais, je vais être copine avec un tel parce qu'elle est ci, elle est ça. Mais quand on change ces règles du jeu, parfois, ça peut créer un déséquilibre et dans les relations, elles s'arrêtent. Ça, c'est quelque chose que maintenant, j'apprends à accepter. Ouais. Je n'en souffre plus. Avant, c'était vraiment horrible pour moi. Pourquoi on n'est plus amis? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je me mettais toujours la faute en me disant, j'ai dû faire quelque chose qui n'allait pas. Enfin, voilà.
Alors que ça s'est fait naturellement, tout simplement, parce que vous avez...
Ça continue. Peu importe. En tout cas, nos chemins, on n'est pas obligé d'être amoureuse de la même personne toute sa vie. On n'est pas obligé d'être amie avec la même personne toute sa vie. Et c'est pas grave. Moi, tout ce que je veux, par contre, c'est de l'explication, de la communication. Ça, c'est vraiment la chose qui est la plus importante pour moi. Le silence, si tu veux me faire du mal,
c'est ce qu'il y a pire.
C'est vraiment la pire des choses que tu puisses me faire.
Aujourd'hui, on utilise le terme, par exemple, les jeunes utilisent beaucoup le terme ghosté dans différents domaines. Et moi, je trouve que cette manière de fonctionner, elle est horrible.
C'est ça.
pour les autres, pour soi-même. Alors, le déclic de l'exposition, vraiment le premier déclic.
Le premier déclic, alors, quand j'ai rencontré donc Pauline pour le podcast, on s'est quitté en se disant « Ah, il faudra qu'on fasse quelque chose ensemble », mais on ne savait pas quoi. Donc ça, c'était en septembre. Septembre, le temps passe, on ne s'est pas fixé de deadline. Et un jour, donc on arrivait à l'automne, et un groupe de femmes avec qui j'ai un club de lecture féministe disent « Ah bah tiens, on arrive à l'automne, et il y a un processus qui s'appelle Samhain, là, qui permet de passer de l'été à l'automne, qui est une espèce de transition qui se faisait, qui est le avant Halloween. » Je dis « Ah bon, je connais pas, donc on va se réunir entre nous, et chacune vient avec comment elle se sent, enfin voilà. » Donc j'y vais. Et je me dis, je verrai ce qu'il en sort, enfin voilà. Mais je commençais à me sentir un peu triste, parce que j'arrivais à mon mois anniversaire, et le mois de novembre, c'est le mois où je suis née, que j'adore, mais en même temps, ça me rappelait que mes parents n'étaient plus là pour me souhaiter bon anniversaire, ma sœur non plus, et l'année d'avant, déjà, ça avait été, je me sentais vraiment très très mal, j'avais passé un mois vraiment, pas à pleurer tous les jours, mais pas bien. Et je m'étais dit, je verrai. Donc je vais à ce rituel-là, il se passe, et... Je me souviens m'être couchée en me disant, on dit que l'automne, c'est un moment où on est censé ne pas faire quoi que ce soit, se mettre peut-être en posture un peu, pas d'hibernation, mais déjà commencer à se poser et tout et tout. Donc, et on ne crée pas forcément. Je dis, je ne créerai rien et je laisse venir la peine, je laisse venir toutes ces choses-là et tant pis. Je me souviens de m'être couchée avec ça et me lever le lendemain en me disant, ah tiens, Pauline, je repense à Pauline. Ah, peut-être des photos avec mes mains, j'avais envie de faire des choses par rapport à mes mains, ça me rappelle beaucoup de mon père. Je me couche, c'était pas ça. Et le lendemain, moi j'adore dormir, je me souviens dans mon lit, il devait être 7h du matin, j'allume mon téléphone et l'idée de l'exposition est venue comme ça. Et j'ai allumé le portable et j'ai noté tout. Alors je parlerai de ci, ça, nanana. Et en fait, cette invitation à accepter ma tristesse, je sais pas ce qui s'est passé, ça m'a donné en tout cas envie de créer quelque chose. Alors je me suis dit, normalement on crée rien. Et pour de vrai, par contre, c'est le premier automne où j'ai vraiment senti la différence entre l'été et l'automne, où je me suis autorisée à ne plus sortir. Quand les amis me proposaient des choses, je me disais non, j'ai pas envie. Je suis restée chez moi, vraiment de novembre à mars, que à écrire. Écrire pour l'exposition, commencer à solliciter les artistes, commencer à réfléchir au lieu où je devais exposer. Et vraiment des dimanches entiers à ne faire que ça, mais sans souffrir, être vraiment dans... Je parlerai de ci, le fameux dossier de presse dont tu te parlais, je l'ai écrit à ce moment-là. Ah, il y a ci, ça. Le concept était dans ma tête, comme ça. Et chaque moment de vide que j'avais, je le consacrais à ça. Et je suis sortie un petit peu, mais pour les gens qui me connaissent, je dirais que je pouvais être dans une vie sociale, de concert et machin, très très importante. Et là, vraiment, j'ai passé vraiment, c'était une hibernation autour de ce projet-là.
Je dis waouh, parce que tu as cette capacité de te concentrer sur un certain temps sur un projet. Moi, j'ai un problème de persévérance, donc du coup, mais il y avait la motivation aussi, je pense, puis c'était un projet... une belle idée.
Oui, ouais. Et puis il était multiple en fait, parce que c'était un seul projet, mais en même temps il me faisait appel à tellement de façons d'être différentes. Le fait de travailler avec des artistes, le fait de travailler sur de la musique, le fait de travailler sur de l'écrit, toutes ces choses-là. Et puis on a commencé à faire les séances photo avec Pauline dans la foulée, et je préparais un peu ça, parce que nos séances, on se donnait des thématiques quand même, en se disant bon, on va essayer de faire des photos qui saisiront telle ou telle idée, mais on savait pas trop en fait ce que ça allait donner.
C'est vrai que donc, t'étais pas toute seule, le projet tu l'as créé avec d'autres, donc j'avais jamais fait ça avant.
Oui, j'avais jamais fait ça avant, donc et en parallèle je m'étais dit je veux garder une trace de la procédure, et donc du coup j'ai commencé à écrire en parallèle un carnet d'exposition, donc je cherche à faire éditer d'ailleurs, et j'ai commencé à envoyer des maisons d'édition. Alors on n'a pas les réponses tout de suite,
parce que tu t'es dit je vais inspirer d'autres personnes, et si une autre personne souhaiterait effectuer le même projet, le même concept, vais élaborer toutes les étapes.
C'est ça, garder des traces de ça, transmettre en me disant, c'est pas pour dire que c'est un projet modèle, mais de se dire, même si quelqu'un veut prendre qu'un des éléments, quand on n'a jamais créé une exposition, on passe par des choses complètement différentes. Et je me dis, en fait, entre les amis qu'on sollicite, les inconnus, toutes ces personnes-là, des gens où on se dit, là c'est gagné, et en fait pas du tout, des gens où on se dit, c'est fichu, et finalement ça marche. Enfin, c'est toutes ces choses-là, les rencontres, et montrer que finalement, c'est là qu'il faut s'ouvrir, et effectivement, d'aller solliciter son entourage parfois, c'est pas forcément la première chose à faire, mais parfois ça peut être aussi aidant. Être capable de se rendre compte que autour de nous, il y a des ressources qu'on n'avait pas imaginées. Et c'est toutes ces choses-là, donc j'ai essayé aussi d'écrire honnêtement les phases par lesquelles je suis passée. Donc d'ailleurs, il y a même la phase où je t'ai parlé pour te contacter et pour t'associer au projet, pour que tu me mettes pour mon site internet notamment, c'est dedans. Je note Stéphanie, telle date, je mets la date et je mets l'échange. Et c'est toutes ces choses-là que je trouvais importantes d'avoir comme un journal de bord. Et du coup, ça c'était en parallèle. Donc du coup, j'avais l'impression d'être dans deux travaux différents. Et effectivement, moi je suis plutôt un cerveau qui aime ouvrir plusieurs tiroirs en même temps. Et donc du coup, il ne fallait pas que je me sente frustrée. Et je ne me suis pas sentie frustrée du tout parce que c'était très très nourrissant.
Et est-ce que tu sais si une personne est inspirée actuellement et souhaite créer un projet similaire au tien?
En tout cas, de la même façon, je pense pas, mais j'ai croisé par le biais de cette exposition pas mal de gens, et là ça m'a donné envie, et je me suis dit j'aimerais bien accompagner des artistes. Et donc j'accompagne actuellement une artiste d'origine iranienne. Je le spécifie, c'est pas très important d'être iranien, iranienne ou malien ou malienne, mais là en l'occurrence dans sa création c'est important, parce qu'elle se positionne comme une jeune femme originaire de l'Iran, et c'est sa création est impactée par ça. Et donc du coup là on est en train de travailler sur son projet pour exposer à partir de juin et donc du coup moi je me suis engagée auprès d'elle pour l'accompagner dans sa démarche, parce qu'elle fait du pastel et elle va associer du son également, des musiques qu'elle va créer. Du coup on est dans un double entre le son et la création plastique, donc ça c'est des choses que moi j'ai déjà faites aussi et que j'aime beaucoup, et du coup ça me plaît qu'elle soit venue me chercher, parce que elle a aimé mon exposition, et son amie qui m'avait connue aussi au démarrage de l'exposition m'a dit est-ce que tu pourrais la rencontrer, elle aimerait que tu puisses la guider sur ça. Et j'ai adoré ça en fait. Pour de vrai, ma maladie, et c'est celle que j'aurai jusqu'à la fin de ma vie, c'est le désir que l'on peut avoir pour moi. Et quand je parle du mot désir, il faut vraiment le décorréler du désir physique ou sexuel. Je parle vraiment de l'envie qu'on a de passer du temps avec moi. Ça, c'est vraiment encore la chose à chaque fois où je suis obligée de dire là, tu y vas parce que tu as envie qu'on ait besoin de toi, ou parce que vraiment ça te fait plaisir.
C'est vraiment toi.
Est-ce que c'est vraiment pour toi? Quand j'arrive à être « c'est vraiment pour moi », ok, j'y vais. Maintenant, si c'est vraiment pour faire plaisir à l'autre, je ne fais plus. Et donc là, les deux étaient conjoints, c'est-à-dire que j'avais du désir pour son projet et elle avait du désir pour travailler avec moi. Et donc voilà, donc moi, c'est ça que j'ai envie de proposer aujourd'hui, c'est de dire, si vous avez envie que je vous accompagne, sans avoir fait d'école spécifique, je ne suis pas directrice artistique ou curatrice ou quoi que ce soit de formation.
Non, mais l'expérience.
Mon expérience me permet de...
T'as l'expérience du terrain.
En tout cas, même si quelquefois, je donne souvent cet exemple-là, je pourrais faire des pansements à mes enfants à la maison, ce n'est pas pour autant que je vais dire, allez, je me décrète médecin ou infirmière ou quoi que ce soit. Il faut faire vraiment une formation pour ça. Mais en tout cas, le culot que ça m'a nécessité pour créer cette exposition sans être attendue, ça fait que je n'ai pas peur d'aller demander pour d'autres personnes à un endroit, dire bah voilà, moi j'ai une artiste que je vais vous présenter, est-ce que ça vous intéresse son projet ? Le nom ne me fait pas peur.
Le projet, il a l'air magnifique.
Vraiment. Dès qu'il va sortir, je vous en reparlerai, mais c'est vraiment une artiste, elle fait de la musique, elle peint depuis, je sais pas, qu'elle a 5-6 ans et elle a une vingtaine d'années maintenant. C'est vraiment super et moi je suis hyper fière de pouvoir accompagner des projets comme ça. Alors je le dis souvent, je suis féministe et d'accompagner des projets de femmes, un projet d'homme qui me plairait aussi, il n'y a pas de souci. Moi, ce n'est pas un féminisme d'opposition, c'est un féminisme de rassemblement qui m'intéresse. Et du coup, mais là, d'accompagner ce premier projet d'une jeune femme, ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Et puis moi, quand je vois les jeunes générations, ça fait un peu vieille conne quand je dis ça, mais quand je vois les plus jeunes, toutes les idées que ces générations ont,
mais moi je suis épatée. Enfin, moi je suis beaucoup de comptes Instagram de jeunes femmes, de femmes plus jeunes que moi. Et moi j'ai 42 ans et je suis beaucoup de et elles m'apprennent tellement de choses.
Je suis fascinée.
Je suis vraiment fascinée par leurs propos, par leurs idées. Bon, elles sont inspirées des femmes qui ont précédé, bien évidemment, elles en font quelque chose de bien.
Je pense que on n'a pas à rougir aussi, parce que bien évidemment, moi clairement à 13-14 ans, j'avais pas la même ouverture sur le monde que certaines collégiennes ou collégiens de 13-14 ans ont aujourd'hui. Mais ça, cette ouverture là, c'est nous aussi. Quand on fait des choses comme tu fais aujourd'hui avec moi, de donner la parole à d'autres et de transmettre cette parole-là, on laisse la possibilité à des gens d'entendre des histoires et des micro-histoires ou des macro-histoires, ça ne donne pas la même chose. Quand je parle des macro-histoires, on parlerait, je ne sais pas, de quelqu'un de très connu. Alors bon, je vais redire Vanessa Paradis. Son histoire, oui, elle est belle, elle est intéressante, mais maintenant, c'est comme une diva et il y a quelque chose d'inaccessible. Et donc du coup, pour te dire, je veux avoir la vie de Vanessa Paradis aujourd'hui, je sais pas si on trouverait quelqu'un qui pourrait avoir la même carrière qu'elle. Elle a commencé très jeune et elle est encore là et elle a encore une carrière. Par contre, nos vies, j'allais dire, somme toute ordinaire, qui nous permettent quand même de faire des choses qui sortent de notre ordinaire, sans parler d'extraordinaire, mais qui sortent de l'ordinaire. Je trouve que rien que ça, c'est donner un exemple de se dire, oui, on peut être une femme, avoir des enfants, aller avoir un travail, machin, et en plus, faire ci, ça, rien ne nous l'interdit. Ce qui n'est pas interdit, moi, je dis toujours que c'est possible, tant qu'on ne fait de mal à personne.
Exactement, Alors, je voulais te poser la question aussi, c'était, tu as frappé aux portes pour les moyens financiers.
J'ai frappé à beaucoup de portes et il y en a très peu qui se sont ouvertes. Ça, c'était la douleur que j'ai. Enfin, c'est sans. Je pense qu'il faut avoir un peu de foi en son projet quand on le crée. Donc, j'avais vraiment foi en mon projet et je me disais, tel que je le présente, clairement, en plus, on était en 2021, vraiment, on était dans des enjeux encore de repli, on sortait du Covid, enfin, on y était encore un peu. Moi, j'avais beaucoup ressenti de fermeture, les gens entre eux ne faisaient plus de choses, on était dans des fins d'élections qui avaient montré aussi que les gens étaient les uns contre les autres, les unes contre les autres, et je me disais, le faire société, les communes, les départements, les régions, forcément, c'est un projet qui va leur parler. Parce que c'est quelque chose qui incite au rassemblement positif. Et je me disais, clairement, on va me suivre. Et ben non. parce que, en fait, alors, comme tu disais, je ne suis pas artiste, pas reconnue, je ne suis pas inscrite dans un registre d'artiste. Donc, on me renvoyait ça, on me disait, mais c'est quoi votre statut ? J'ai créé une association pour avoir un statut. L'association n'était pas suffisante. Après, le département, la région, tout ça, parfois, ils aident à la création. Mais il faut avoir le statut d'artiste. Après, il y en a qui peuvent aider à la production, il y en a qui peuvent aider si tu vas vers leur public. Et du coup, ça, c'était très compliqué. Donc là, par exemple, je vais intervenir pour finir avec l'exposition dans une école. Et là, c'est la ville de Rennes. Derrière, les deux aides principales en termes d'institutions que j'aurais eues, c'est la ville de Rennes. Un premier projet qui m'a permis d'aller dans un EHPAD, c'était sur le sujet des discriminations. Or, moi, je ne voulais pas que mon projet soit que sur une porte ouverte sur la discrimination, mais c'est vraiment le volet artistique qui m'intéressait. Mais bon, c'est une enveloppe que j'ai eue par rapport à ça. Et là, le projet, par contre, c'est scolaire. Donc la ville de Rennes peut soutenir des artistes. Si on n'est pas dans une résidence, moi je ne suis pas dans une résidence, sur une dizaine d'heures, on peut avoir une aide de la ville de Rennes. Et donc la ville de Rennes, conjointement avec l'école dans laquelle je vais intervenir, vont me financer quelques heures par rapport à ça. Mais autrement, je n'ai rien eu. C'était mes deniers personnels. J'avais cherché des sponsoring. Pareil, j'ai écrit à des entreprises locales. Je n'ai jamais eu de réponse. J'aurais pu relancer, mais j'avais à un moment plus cette énergie-là. Ça me... ça me fatiguait. Voilà, il y a un moment, c'est trop fatigant aussi. Et la grosse chance que j'ai eue, c'est que toutes les photos que j'ai eues pour l'exposition, on a 55, des très grandes, des très petites, sur bâche et tout. J'ai eu une entreprise formidable qui s'appelle Publigraphie, qui était à Pont-l'Abbé, qui a cru en mon projet et qui m'a imprimé toutes mes photos gratuitement. Donc, c'est une forme de sponsoring. Pour les personnes qui ont déjà imprimé des photos, ça coûte très très cher. Et là, vraiment, on est sur des formats en taille réelle. Donc, à ma taille réelle à moi, 1m88, on est sur des formats plus grands que du A0.
Il y a des grands formats.
Enfin, voilà, des très grands formats, des petits formats. Ils m'ont imprimé ces photos-là. Ils m'ont suivi de A à Z sur mon projet. Ils ont mis à ma disposition des graphistes. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est une forme d'aide aussi hyper importante. Il y a une autre entreprise que tu connais qui s'appelle Délices Métis qui m'a aussi sponsorisé, qui m'a donné. Un peu d'argent aussi. Donc ça, ce sont des petites aides comme ça. Quand je dis petite, c'est pas pour rendre petite l'aide, mais pour dire que c'était pas des aides telles que je les attendais en termes département, région ou état. Mais c'est ça qui m'a permis de garder la foi aussi à mon projet, parce que les retours que j'avais à chaque fois de ces personnes-là qui m'aidaient, c'était de me dire « Ok, ben, en fait, mon projet, il vaut quelque chose. » Et la chose importante, c'est que tous les artistes ont travaillé gratuitement ou presque. L'artiste que j'ai pu vraiment payer à la mesure de son travail et encore elle m'a fait des arrangements financiers, c'est Pauline Théon, la photographe, parce que vraiment là on avait plusieurs séances de travail. Les autres artistes plasticiens m'ont confié leurs œuvres et ont travaillé pour moi gratuitement, ils ont pris sur leur temps. Romain Izoard qui a créé les musiques, le thème musical de l'exposition, il a produit 3 titres, passé en studio, fait appel à des artistes connus, reconnus aussi en France et dans le monde, ben, il a travaillé pour moi. Et franchement, je lui ai payé 1/10 de ce que son travail valait. Il m'a fait cette proposition-là. Proposition, en tout cas, il m'a permis de travailler avec ses musiques et de pouvoir les utiliser, alors qu'effectivement, normalement, c'est des droits, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment, par contre, voilà, des rencontres cadeaux, des rencontres qui ont fait que ce projet existe. Il a été présent quasiment à tous les vernissages. Enfin, vraiment, c'est toutes ces choses-là. Et puis après, les salles qui m'ont accueilli, elle a été à Argenterie du Plessis, au Centre culturel, à la médiathèque, au Reux, enfin, à Rennes et tout. Il y a des endroits qui ont pris en charge aussi tous les frais de bouche pour les vernissages. Oui. Donc ça, rien que ça, ça fait une différence, hein, parce que moi, c'était important à chaque fois, j'adore manger, donc de nourrir les gens et leur donner à boire. Et ben, toutes ces choses-là, ça a un coût aussi. Et c'est toutes ces choses-là qu'il faut envisager. Et c'est tout ça dont je parle aussi dans le carnet d'exposition, parce qu'en fait, se lancer dans une exposition, oui, il y a le côté créatif, mais il y a tout l'à côté, trouver les salles, écrire des courriels, envoyer des courriers, parfois les dossiers de presse, moi j'en ai envoyé je sais pas combien, avec des timbres et des enveloppes et des machins. Toutes ces choses-là, ça a un coût en fait. Et si on se lance dans un projet, il y a vraiment beaucoup de possibilités de laisser tomber. Si on n'a pas quelqu'un qui nous dit « Non, vas-y, je suis là, je t'aide. » Et c'est pour ça que je voulais aider l'artiste dont je vous parlais tout à l'heure, s'appelle Niosha, parce que je me souviens que j'aurais adoré que quelqu'un prenne le temps pour moi d'écrire aux salles, de créer l'association, de demander les subventions, toutes ces choses-là.
Oui, il y a un sacré travail derrière.
Exactement. Ouais, et ça, c'est vraiment important, je trouve, de trouver quelqu'un qui puisse nous soutenir à la hauteur de ses moyens aussi. Hein. Moi, j'essaie vraiment de ne pas ruiner les gens parce que c'est important aussi de faire les choses avec le cœur. Niosha, clairement, je fais ça avec elle gratuitement. Ça ne sera pas forcément le cas pour les artistes suivants que je serai amené à accompagner. Mais elle, j'avais envie, c'est un accompagnement, j'allais dire sororal, quoi. J'ai vraiment envie que ce ne soit pas une limite. Et j'ai vraiment envie que son projet soit présenté dans le maximum d'endroits possible, quoi.
Alors, vraiment ton projet d'exposition, il y a vraiment les arts, beaucoup d'art, l'art sous toutes ses formes. J'ai eu vraiment l'impression de retrouver tous les arts que j'apprécie aussi en plus. Donc, et là, il y a la musique, il y a une phrase que tu notes peut-être sur ton site, je l'ai lu quelque part, mais parfois lorsque je vois une personne, j'ai une musique qui me vient en tête. Alors ça m'a fasciné. Il y a des personnes qui écoutent une musique, elles voient plein de couleurs et tout ça. Je ne sais plus comment il y a un terme pour
ça. Oui, c'est vrai.
Et j'ai trouvé ça sympa.
Bah, écoute, quelquefois c'est marrant.
Tu vis en musique. Hein.
Oui,
j'adore la musique
j'aime
aussi.
J'aime vraiment ça. Et ça, c'est d'ailleurs un bon indicateur pour moi. Quand je suis épuisée ou dégoûtée ou quoi, ben, j'ai pas envie d'écouter de la musique. Et là, ça me donne une indication sur mon état d'esprit et mon besoin de faire une pause et de me couper. Parce que si j'arrive pas à me remplir même les oreilles de quelque chose
même
que j'aime...
Même à écouter la musique, c'est que là, vraiment, il faut faire pause.
Au bout du rouleau, comme on dit. Donc ouais, et en fait, quelquefois, je suis dans la rue, je regarde des gens et bim, j'ai une musique qui... La façon qu'elle a de bouger, la façon qu'elle a de regarder le monde, tout ça. Et c'est ma playlist interne parce que du coup, je connais pas toutes les musiques du monde. Quelquefois, ça va être juste des trucs avec des paroles d'une musique que j'aime bien, ou parfois ça va être juste un tin-tin-tin, enfin voilà, des petits trucs comme ça. Et souvent, mon fils, il me prend en vidéo ou en photo pour mon compte Insta. Et quelquefois, je bouge et je ne sais pas quelle musique je vais mettre d'abord. Donc, je suis en train de me faire un petit truc dans ma tête. Je me fais des petits mouvements, enfin voilà. Et en fait, comme pour mon choix de vêtements ou de bijoux, toutes ces choses-là, j'imagine toujours comment je me ressens. Et je me dis, tiens, je me sens dans telle musique. Tiens, je me sens dans telle couleur. Je me sens dans... Et voilà. Et tout ça se mélange. Et ça fait que je peux commencer la journée sur un mood vraiment genre, allez, on va bouffer la vie, quoi.
Ouais, mais tu oses la musique.
Ouais, vraiment.
Tu oses
la
musique. Tu oses. Je vois tes lunettes aujourd'hui, lunettes vertes et roses.
Ouais,
tu oses la couleur. Ouais, fluo. Tu oses la couleur.
Ouais.
Et la danse aussi. Je vais encore faire un lien avec ton exposition, mais sur ton compte Insta aussi. On sent que tu aimes la danse. J'ai bien aimé l'évocation dans ton exposition. Il y a une personne, alors je ne sais plus qui c'était. J'ai retrouvé une photo où il y a une artiste qui parle de la danse.
Oui.
Ça m'a beaucoup inspirée, ce qu'elle a mis. J'ai pris en photo et tout.
Oui, c'est marrant parce que, en fait, les artistes, quand j'ai travaillé avec eux, je leur ai confié des photos, mais je leur ai jamais donné le titre ni ce que moi j'allais aborder avec cette photo-là. Donc, vraiment, ils avaient et elles avaient carte blanche pour créer. Et c'est très rigolo parce que quand j'ai découvert le tableau de Charlotte Gillard, elle parlait de ça et je me dis. Oh, elle m'a imaginé dans une foule qui dansait et moi je m'étais imaginé seule dans ma salle de bain avec une espèce de discothèque virtuelle et c'était très drôle de voir comment nos idées se sont croisées et vraiment ouais c'est je suis pas une danseuse professionnelle moi j'ai pris des cours par moment danse orientale danse africaine voilà et en fait j'ai un gros problème retenir une chorégraphie ça me
j'ai ce problème
ça me contraint j'ai l'impression et en même temps j'ai fait avec la danse africaine et tout et à un moment donné je me disais mais j'ai l'impression que je ne sais plus danser naturellement et que je ne sais plus me lâcher et donc tout ce qui est danse à deux moi j'adore voir les gens qui font des rocks des machins compagnie
je suis incapable de
et
faire
je sais
ça,
pas me quelquefois je vois bien il y a des hommes qui me disent ah tiens ils essaient de me prendre et tout ils me disent mais et il voit bien que je résiste et il me dit mais laisse-toi faire je dis mais je sais pas faire en fait je sais pas danser à deux déjà et puis en plus je trouve que ça me bloque dans ma liberté de mouvement
c'est
et de
ça,
mon rythme.
Moi, j'ai pris des cours de danse, mais très tard, à partir de mes 18 ans, où je me suis dit, au lycée, il y avait des cours qui étaient proposés de danse moderne. Après, à la fac, j'ai fait du hip-hop. J'adorais. J'ai fait 2 ans de cours de hip-hop et après, de danse africaine, plutôt dans les environs. Et j'ai cette problématique aussi, parce qu'on danse assez facilement dans ma famille. Moi, je danse à la maison. Enfin, mes enfants, ils m'ont toujours dansé, etc. Et du coup, quand on est habitué à danser comme on le souhaite, et tout, et on se retrouve dans un cours. Au début, ça a été dur.
Ouais.
Tout le monde allait à gauche, moi j'allais à droite. Et le prof, il se marrait. Je sais, un prof de danse africaine, il dit là, oh Stéphanie, encore. Non, tu vas toujours à l'opposé. Bon, j'ai réussi à retenir la choré au bout d'un moment, mais je me suis dit, je pensais pas que ça allait être si dur.
Ouais, vraiment, c'est vrai que. Et pourtant, quand on voit les gens qui sont sur scène et qu'il y a une chorégraphie et qu'il y a un ensemble, je trouve ça très très beau.
Ah, j'admire, moi.
Mais je suis pas capable, enfin. Ouais. C'est pas impossible, mais la dose de plaisir, elle est quand même vachement limitée de ce fait-là pour moi.
Ouais, moi, il faut. Je suis dans la musique, quoi. Il faut que j'écoute les sons musicaux et il faut pas que je compte mes pas, quoi.
C'est ça, ah ouais, c'est clair.
Par exemple, j'ai essayé au lycée aussi la danse bretonne et à chaque fois, la prof, c'est compte tes pas, Stéphanie, compte tes pas.
Ah ouais, moi, rien que de. Alors déjà, compter pour moi, c'est un exercice qui est pas agréable.
Ouais.
Compter des pas, penser qu'il faut aller à droite ou à gauche, mal latéralisé en plus. Donc, à chaque fois, comme toi, je vais dans le mauvais sens et ça me fait trop de trucs et du coup, j'écoute même plus la musique et je suis là, 1, 2, ah mince, là fallait que je chante, faut que je regarde mes pieds, machin, et ben voilà. Donc, je laisse ça aux personnes qui aiment bien faire des cours.
Oui, ouais.
Mais
puis,
globalement, ouais, c'est pas un truc. J'aime, cette façon de se lâcher, de se faire du bien. Je suis dans ma salle de bain, je mets de la musique. Je suis dans ma chambre. Même, en fait, j'adore écouter de la musique en permanence, même quand je travaille. Alors, quand je suis au bureau toute seule, je me mets de la musique, ça c'est clair, ou j'écoute un podcast, ou voilà. En fait, mon cerveau, il réfléchit bien. Quand il y a un son comme ça extérieur, en fonction de ce que j'ai à faire. Il y a des fois où je me dis, bon là, je mets plutôt un truc, vaut mieux que je mette un truc que je ne connais pas ou un truc un peu calme. Mais globalement, je peux vraiment tout écouter en travaillant, parce que quelquefois, ça me facilite la rédaction d'un projet ou quoi. Moi, j'aime bien avoir une musique enthousiasmante ou quelque chose que j'aime bien ou un podcast pour m'accompagner dans mon travail. Ça, c'est vraiment un truc que, quel que soit le projet, l'exposition, j'ai mis un moment sur mon site internet la playlist de l'exposition. Je mets un peu les artistes que j'aime bien. Je parle de Gaël Faye notamment, mais aussi de Salif Keita, d'artistes que j'aime bien écouter depuis très longtemps et qui m'aident à réfléchir, à me sentir bien, et voilà. Et les trois titres que Romain Isoar a créés, il y a des moments où j'étais très très mal, triste un peu, voilà, pendant l'exposition, après aussi, et quelquefois encore maintenant, et ben je mets ces trois titres-là, et je me dis, allez, voilà, la force est là en moi, et n'oublie pas que t'es pas là pour te laisser écrabouiller par la planète, quoi.
Une musique et ça repart.
Exactement.
Alors tu oses la musique, mais il y a vraiment un point aussi que je souhaitais aborder avec toi, parce que j'aime beaucoup ton compte Bambafé. Ouais. Donc on a trois comptes Instagram, oui. Tout le monde passe sur le trône. Tu as le compte aussi Je suis Aminata, Bambafé-7, et puis
Haut-parleuse. C'est pas moi qui le gère en direct, voilà. Mais on a une personne qui s'occupe de la communication.
Et puis, sur ton compte Bambafé, c'est vraiment le vêtement que tu mets en avant.
Ouais.
Ça, moi, j'aime bien le vêtement, mais j'ose pas, moi, avec le vêtement énormément. Mais j'aime bien te suivre pour ça. Je pense que ça fait vraiment partie aussi de l'expression de ton identité, si on peut dire ça comme ça.
Oui, mais en fait, d'aussi loin que je me souvienne, ma mère, son père, moi, je l'ai pas connu, c'est mon grand-père, parce qu'il est décédé quand elle avait 14 ans. Son père était tailleur au Mali. Il faisait des vêtements. Il était très sollicité par des gens qui, dès qu'il avait besoin de vêtements pour des événements importants, des gens connus, des gens moins connus, il faisait faire des vêtements par lui. Et ma mère nous racontait à chaque fois, moi quand j'avais envie de quelque chose, elle demandait à son père, elle lui faisait des croquis, il lui faisait ce qu'elle voulait. Et donc elle faisait partie des premières à avoir mis des mini-jupes et tout, avec des tissus wax ou basin, des tissus africains qui étaient travaillés, parce qu'à l'époque, ils étaient beaucoup tournés vers la France, c'était encore une colonie française à cette époque-là, le Mali, et donc ils voyaient beaucoup les Johnny Hallyday, les Brigitte Bardot avec des mini-jupes, tout ça, donc quand
ils mélangeaient
ça, et ma mère, elle mettait, moi j'ai des photos, une ou deux photos, on la voit comme ça, avec des modèles comme ça. Et donc, ma mère a toujours adoré nous habiller avec ma sœur. Quand on était petite, on nous appelait les jumelles, d'ailleurs, elle nous habillait vraiment pareil, alors avec des différences de couleurs parfois, et elle a toujours aimé nous habiller pour aller à l'école, des tenues pas forcément qu'on aurait choisi tout le temps, mais des jupes, des leggings, à l'époque ça s'appelait pas comme ça, ça s'appelait les caleçons. Enfin bon, bref. Et donc, on a toujours eu ce regard un peu sur le vêtement, qui s'est un peu perdu à un moment donné parce que moins d'argent. Quand ma mère s'est séparée de mon père, j'étais au collège en 5e, et là clairement on n'avait pas de thunes, et à ce moment-là ma mère on a beaucoup recyclé, et j'ai pris beaucoup de vêtements de mon grand frère qui avait 50 plus que moi, donc je ressemblais vraiment à rien, vraiment j'étais dans des jeans trop larges, des vêtements trop larges. Et dès que j'ai pu reprendre un peu le pouvoir sur mes vêtements et racheter des choses, j'ai pas commencé d'emblée avec des choses très fortes comme je peux avoir aujourd'hui, mais j'ai toujours aimé penser aux couleurs, aux formes, aux matières et tout. Avec ma sœur, on était vraiment dans ce rapport aux vêtements, et ça c'est quand même la chose qui demeure. J'ai un dressing aujourd'hui qui est bien trop grand, qui pourrait faire pleurer des personnes qui font attention à la planète. J'essaie d'y faire attention de plus en plus, j'essaie de plus en plus d'avoir des vêtements de seconde main, de vintage et compagnie, mais j'aime le vêtement.
Je
m'amuse vraiment.
Tu te tournes aussi beaucoup vers des créateurs locaux, hein,
oui,
je pense.
J'adore porter cette des choses qui sont créées par des femmes qui sont en France, à un bout de la France. Sophie Cochevelou, que j'aime beaucoup aussi, qui fait des gros bijoux à base de jouets, c'est du recyclage aussi. Et elle est à Londres maintenant, mais c'est une Française à la base. Enfin, toutes ces personnes-là qui viennent magnifier un petit peu la personne que je suis. Moi, c'est vraiment... C'est vraiment un doudou pour moi, le vêtement. Moi, je prépare mes vêtements la veille, toujours.
Ouais, alors je voulais te demander, c'est quoi ton astuce pour...
moi, pour gagner toujours du temps, j'adore dormir. Donc du coup, moi, gagner du temps le maximum dans mon lit le matin. Donc je prépare mes vêtements la veille en me disant, demain, qu'est-ce que j'ai comme journée? Qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce qu'il va faire beau, pas beau? Plus il fait moche, plus je vais mettre un truc des couleurs. Plus il fait beau, plus j'ai envie de mettre aussi des couleurs. En fait, voilà. Donc j'essaie vraiment à chaque fois de me dire, tiens, qu'est-ce que je vais mettre demain? Ah tiens, tel bijou. Et en fait, je fais des petites conversations entre mes bijoux. Ah oui, quand je mets ça, par exemple, aujourd'hui on se voyait, comme on allait sur un podcast, j'ai mis ma bague bouche. parce que bah voilà, on allait parler, enfin voilà. C'est j'ai vrai. Mis mes sucettes aux oreilles parce que bah du coup, il y avait un côté doux, enfin voilà. Et en fait, j'ai cette besoin de me dire "Ah tiens, qu'est-ce que tu vas mettre aujourd'hui ?" Donc mes vêtements, ils ont une petite conversation avec moi dans ma tête sur l'ambiance dans laquelle je veux être, si je veux dans un truc un peu plus affirmé, un truc qui ferait sérieux ou pas, mais j'essaie vraiment de pas m'habiller en fonction des personnes que je vais croiser, mais plutôt en fonction de comment je me sens dans mon énergie. Donc moi vraiment et mes enfants, je leur fais faire la même chose, je prépare mes affaires la veille parce que le matin, j'ai essayé de faire ça par moment. Enfin, j'ai essayé. Ça m'est arrivé par erreur d'oublier de faire, et c'est vraiment peut-être 3 ou 4 fois dans ma vie. Et à chaque fois, c'était la galère. Le matin, j'étais là. Ah, qu'est-ce que tu mets ? Tu mets un truc, tu essayes 2 fois, 3 fois, et puis tu finis par partir dans une tenue qui te plaît pas. Et dans la journée, je me sentais pas bien. Et franchement, moi, ma technique, c'est vraiment de me préparer le soir et de penser un peu à ces. Ça peut m'arriver de faire des micro-changements le lendemain, de me dire « Ah non, finalement, tel collier et machin ou quoi. » Mais c'est vraiment, la base est là, les vêtements, que ce soit un costume 3 pièces, une jupe ou un pantalon classique, un baggy ou quoi. Je pense vraiment à tout ça la veille. Moi, c'est mon... Et j'aime bien aller me coucher avec ça. Et quelquefois, quand le matin, je suis dans mon lit, je fais « Oh, il faut déjà se lever. » Je me dis « Ah, tu mets ça aujourd'hui, clac !» Et ça me fait sortir du lit tout de suite et je m'habille, je suis trop contente.
J'aime beaucoup ton haut rose là par exemple, oui. Que tu as aujourd'hui, c'est très joli.
Ouais, ça je l'ai acheté à Paris dans une boutique qui s'appelle La Frange à l'envers et qui fait de la seconde main, que j'avais découvert dans une émission, cette émission que tout le monde connaît ou presque, avec Christina Cordula là, les reines du shopping. Et en fait elle donne quand même des bonnes adresses de temps en temps, et j'étais allée voir cette boutique parce que j'avais trouvé très belle et j'aimais bien l'idée du seconde main, et j'ai acheté ce petit haut là-bas, et c'est vrai qu'il va avec quasiment toutes mes tenues. Il a un côté un peu frou, et en même temps on peut le mettre dans la vie de tous les jours, enfin voilà. Et ouais. Ouais, et c'est vraiment, j'aime bien associer vraiment des vieilles pièces avec des pièces. J'ai des mocassins en pied qui sont des mocassins qui ont plus de 40 ans que j'ai acheté dans une boutique à Nantes de seconde main aussi, enfin vintage du coup. Alors la différence entre seconde main et vintage, elle est pas forcément évidente pour les personnes, mais en tout cas c'est des pièces anciennes. J'aime bien avoir des vêtements aussi qui ont des histoires. J'aime bien les costumes d'hommes, qu'on dit d'hommes aujourd'hui, on est encore dans ces distinguos, mais qui ont appartenu à des hommes. En tout cas, j'ai acheté un costume il y a pas longtemps qui appartenait à un vieux monsieur. Enfin, j'aime bien voilà des trucs comme ça qui reviennent un peu au goût du jour, et les associer avec des badges, tout ça. Je m'éclate avec mes. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime trop faire, le vêtement. Et quand je découvre des gens qui ont encore plus d'audace que moi, je me dis waouh, wow, c'est trop bien, et ça me donne de l'envie pour l'avenir. À un moment, je m'étais dit, bon, à 45 ans, je vais être obligée de me calmer. Je pourrais plus mettre de bijoux comme ça.
Oh non.
Et je m'étais dit, bah, en fait, c'est ce que j'entendais de l'extérieur, dire, bon, bah, ça va bien tes trucs de gamine, mais au bout d'un moment, voilà. Et un jour, je suis tombée sur des comptes, grâce à Sophie, par exemple, qui va chez une vieille dame qui a, je sais pas, 80 ans et qui met des trucs, genre, moi, je suis vraiment une petite joueuse à côté. Et je fais, mais non, en fait, c'est pas fini. Et j'étais là, ouais. Et donc, en fait.
Eh ben, ça fait du bien de tomber sur ce genre de comptes,
ah, ouais,
justement.
Ouais, clairement. Et en fait, pour de vrai, je dis ça, mais je croise plein de gens, que ce soit à Rennes, Paris, ou quand je voyage, qui m'arrêtent dans la rue, qui me disent waouh, wow, vous êtes trop belle, oh, c'est trop beau, oh, merci, ça fait du bien. Et je me dis, bah, rien que ça, j'attends pas forcément une validation des gens, mais quand je vois des personnes vraiment de tous âges, il y a une vieille dame qui m'avait arrêtée dans la rue, je sais pas quel âge elle devait avoir, mais 80 passés, c'est sûr, toute maigrichonne dans son petit imper beige, qui m'arrête, qui me dit oh là là, vous êtes grande, mais qu'est-ce que vous êtes belle aussi, vous savez que vous êtes belle, hein. Je dis oui, oui. Elle dit, j'ai pas qu'on vous le dit. Hein. Je dis oui, oui, merci et tout. Et vraiment, il y avait un truc un peu comme ça d'autorité, mais en même temps de m'empouvoirer en disant, mais n'oublie pas que tu es belle, quoi. Et cette dame-là, je vais rien demander. Elle aurait pu passer à côté de moi, me regarder et rien dire. Et j'avais trouvé ça, ouais, hyper agréable. Même s'il y avait ce côté un petit peu, j'ai l'impression de ma grand-mère qui me grondait. N'oublie pas que t'es belle, hein, d'accord ? C'est comme si c'était, ouais, je sais pas, un petit message de l'univers de dire, attends, là, n'oublie pas. T'as cette place-là. Être belle, je m'en fiche, parce que ça veut rien dire pour... Je peux être belle pour toi et être moche pour quelqu'un d'autre, mais moi, en tout cas, de me réaffirmer, ouais, que je me sens bien dans ma peau, dans mes baskets et tout et
ouais,
tout.
Ouais, puis c'est génial parce que tu parlais des 45 ans, là, je pense que pendant longtemps, les femmes n'avaient pas de miroir. Mmh. À partir d'un certain âge, on n'avait pas de référence, on ne voyait pas de femmes oser mettre de la couleur, on avait plutôt l'impression que c'était le contraire. À partir, ouais, de tel âge, ben, il va falloir se calmer.
C'est
mais
ça.
En fait, ouais, grâce aux réseaux, alors les réseaux sociaux, il y a plein d'aspects, ouais, négatifs, mais l'aspect, ouais, positif, c'est qu'on voit les autres vivre, faire autrement.
Ouais.
Et ça nous aide. Ça
c'est
nous...
clair. Ben, y a une diva de la mode là, qui est morte il n'y a pas longtemps, Iris Apfel, qui avait 102 ans. Son compte Insta est encore visible, mais elle, c'était un niveau de couleur, de forme et tout, qui était, mais jusqu'à sa mort, 102 ans, habillée vraiment dans des trucs hyper colorés, hyper volumineux, des grosses lunettes, des petites lunettes, des trucs très colorés. Et je me dis, mais en fait, à quel moment on nous a appris, comme si on avait mis à l'école, et c'est marrant, hein, il y a des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, mais pourtant qui font valeur presque de loi. À quel moment on nous dit, quand tu auras 10 ans, tu peux mettre ça, 20 ans, 30 ans, et à 45 ans, pour une femme, t'arrêtes de faire ça. C'est marrant, hein, personne ne nous le dit, mais il y a des choses comme ça qu'on intègre.
Ouais, qu'on intègre.
Et par rapport à mon exposition, moi, j'ai des doudous, mais je n'avais pas de doudous quand j'étais gamine. J'ai des doudous, alors je les appelle comme ça, mais pour de vrai, on s'en fiche, mais j'ai plein de peluches hippopotames. C'est vraiment mon... J'en ai amené quelques-unes, d'ailleurs. C'est vraiment mon animal fétiche, l'hippopotame, et depuis quelques années, j'arrive à trouver des peluches, parce qu'avant, je n'en trouvais pas. Et pendant l'exposition, j'en ai parlé avec une classe de CM2, et on est parti de ça. Et ces élèves qui avaient... Ouais, CM2, on a quoi, une dizaine d'années ? Et qui me disait, bah oui, moi on m'a dit que maintenant j'étais trop grand pour les doudous, moi on m'a dit, machin, ma mère, ma cousine, enfin vraiment il y avait une trentaine d'élèves et chacun et chacune avait une histoire par rapport aux doudous qui était censée être genre c'est fini, t'es en CM2, no way, plus de 20. Et j'ai pu discuter avec ces jeunes-là et leur dire, bah moi je les ai, je leur ai montré, j'avais des photos avec et tout. Et ils m'ont dit, ah bah c'est trop bien. Et un qui m'a vraiment touchée, qui me dit, avant de te voir, je devais accueillir des copains, d'habitude je cache mes doudous. Avant de te voir, je me suis dit que j'allais les cacher, maintenant que je t'ai vu, je les cacherai plus. Et ça, je me suis dit, waouh, rien que d'en parler, ça me fait des frissons. Je me dis, mais c'est quand même fou d'intégrer qu'on doit arrêter d'être soi. Alors que si on a besoin de sa peluche et tout, mais en fait, on s'en fiche, on les garde. Moi, j'ai un de mes fils qui est fan de lama. Donc, du coup, je suis trop contente dès que je trouve une peluche lama, quel que soit l'endroit où je vais, je lui prends. Du coup, il en a de plus en plus dans son lit. Et il ne s'est jamais posé la question de les cacher. Ses copains et copines viennent à la maison. Voilà. Et je pense qu'il ne laisserait personne dire, cache ça, quoi. Et en fait, c'est vraiment de me dire, il y a plein de petites lois comme ça que les gens nous donnent sans s'en rendre compte, comme je disais tout à l'heure pour les parents. Il faut arrêter, en fait. On a besoin d'avoir du réconfort. Moi, mon réconfort, je te disais, c'est dans les vêtements, dans cette peluche-là. Trouve le truc qui te fait du réconfort et ne l'arrête pas parce que quelqu'un te dit, t'as plus l'âge ou machin, t'as plus l'âge de quoi. En fait, moi, j'ai mes premières peluches, je les ai eues, j'avais 42 ou 43 ans, j'ai bien l'intention d'en avoir encore plus. J'en ai acheté encore il n'y a pas longtemps. En fait, j'adore les hippopotames en peluche. Je vais en acheter jusqu'à la fin de ma vie. Et peut-être qu'un jour, j'aurai une pièce dédiée aux hippopotames.
Et tu apprécies aussi le thème de la poupée. Enfin, je remarque ça sur tes bijoux.
Alors ça, c'est vraiment la chose que je ne m'explique pas. J'ai pas eu beaucoup de poupées Barbie. En plus, quand j'étais gamine, je pense qu'on en avait une avec ma sœur qui n'avait même pas de vêtements. On l'habillait avec de la pâte à modeler. On lui faisait des jupes, des robes, des machins. Ouais. Mais bon, c'était très limité. C'est la seule qu'on avait. Et j'adore les bijoux avec des... C'est bizarre dit comme ça, mais des bouts d'humains. C'est-à-dire que...
Des jambes.
J'ai toujours des jambes. J'ai toujours au moins soit des bouches, soit des yeux. Enfin voilà, et j'aime les personnages, j'aime les bonhommes. Et ça, c'est vraiment un truc.
Vrai.
Tu m'offres un bijou avec des yeux, bouche ou machin. Ça, c'est vraiment le truc, genre je suis là... trop trop contente, ouais. Donc, ouais. Mais bon, peut-être qu'il faudrait que je passe sur un divan pour m'expliquer ça, mais peu importe.
Ouais, en tout cas, c'est sympa, c'est original et puis c'est ouais. C'est sympathique. Alors, pour terminer, je t'avais demandé d'apporter, si tu as apporté, ouais, hein, c'était pas une obligation, mais un objet. Un hippopotame.
J'ai amené 3-4 items. Je t'ai emmené le premier. Ils ont tous un nom, c'est Little Sugar, parce que d'accord, lui, c'est le premier hippopotame qu'un ami cher à mon cœur m'a offert. Et j'en trouvais pas à l'époque, et un jour, il m'a fait la surprise de m'offrir celui-ci.
Je les prendrai en photo, etc.
Ouais.
Celui-là, il est trop mignon.
Et je t'en ai emmené 3, qui s'appellent To Be et Free. Et donc, To Be et Free. Alors, j'ai fait un petit clin d'œil à cette musique des To Be Free, là, que j'aimais bien, qui est un boys band qui a disparu. Et To Be Free, en même temps, c'était aussi la signification, voilà, d'être libre dans la vie. Donc voilà, donc To Be Free et Little Sugar, mes hippopotames parmi les nombreux que j'ai. Ils ont tous un prénom et ce ne sont que des mâles. Voilà, tout le temps. J'aime être la seule femme chez moi. J'ai que des garçons et voilà. Et j'aime bien l'idée d'avoir mon petit harem masculin.
Oh bah écoute, moi c'est pareil, chez moi il n'y a que des garçons, je suis la seule femme. Je comprends. Ils sont mignons. En tout cas, ils me regardent tous avec
Avec attention, ouais, avec ça, attention. Ils sont bien élevés.
Voilà, c'est ça. Je te remercie, Aminata, pour toutes ces informations. Donc, Aminata Blias Sangaré. Et donc, Aminata, donc, on va le rappeler, tu as créé l'exposition Je suis Aminata. On peut retrouver toutes les informations sur l'exposition jesuisaminata.com.
Ouais.
Tu es aussi co-organisatrice du festival Haut-Parleuse.
Le festival pour oser l'ouvrir.
Voilà, pour oser l'ouvrir. Voilà, c'est ouais. Oser l'ouvrir aussi.
Ouais. Ouais.
Il y avait aussi ce thème autour de oser l'ouvrir. Et puis, également, donc, podcasteuse, tout le monde passe sur le trône. Et puis, il y a autre chose.
Il y a le podcast Quatrième Mur, qui est mon actualité du moment, que je travaille avec le Centre culturel d'Argenterie du Plessis. Et là, je fais les coulisses avec les artistes qui passent. Et ça, c'est aussi encore un truc trop bien.
Ouais.
Mais bon,
j'en ai écouté un, d'ailleurs. Ouais. C'était sympa. Voilà. J'ai bien aimé, parce que je connaissais la personne interviewée.
En tout cas, toujours les coulisses des vies et aller vers les autres. Voilà, ça reste ma ligne directrice.
C'est très bien. Et si tu as d'autres projets, je pense. Je ne sais pas si on peut en parler.
Oui, j'ai un projet de bande dessinée.
Et ça, c'est génial.
D'une des collaborations, un artiste qui a travaillé avec moi sur le projet de l'exposition, un illustrateur, m'a proposé il y a quelques mois de travailler avec lui sur une BD. Je dis ok, et donc la BD sera sur ma vie, et donc là on a commencé à travailler depuis le mois de juillet. Donc on fait des petites sessions de rencontres, moi j'écris de mon côté, lui il dessine, enfin il va commencer à dessiner, là il a commencé à séquencer, donc c'est un gros travail encore que je découvre, hein. Moi j'ai jamais travaillé sur une BD avant, donc je suis très contente d'avoir ce projet là qui est encore différent, une façon différente de se raconter, et de j'adore d'avoir des dessins de moi.
Ah ouais.
Donc voilà, donc à suivre, à suivre.
Vivement alors.
Merci
à toi. C'était le podcast Comment osez-vous. Merci de votre écoute. Retrouvez toutes les informations sur ce podcast sur les réseaux sociaux de Poséo, Instagram par exemple. Poséo.bzh. À bientôt. Et n'oubliez pas d'oser. Don't stop dreaming, 'cause they say no.